l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Midi, passez une minute, soyez les bienvenus pour cette émission Présence Midi en direct. Bonjour Androse Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Depuis 12 jours maintenant, un incendie mobilise les pompiers des Hautes-Pyrénées, c'est au-dessus de Barège.
Oui, exactement, au-dessus de Barège, aux alentours du plateau du Liens, un incendie. Donc depuis le 8 juillet, un incendie déclaré par la foudre. Et je suis partie ce matin en reportage à la rencontre des pompiers qui luttent contre les flammes.
Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes levé tôt, même très tôt ce matin.
Ah bah oui, bah, il faut ce qu'il faut pour les auditeurs de Radio Présence. C'est magnifique le pays Toy avec le lever du soleil, c'est superbe. Mais voilà, ce serait mieux s'il n'y avait pas un incendie qui a abîmé la montagne. Mais bon.
On en parlera dans un instant avec votre reportage. Et puis dans cette émission, on s'intéressera également à l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes avec pas mal de visites dans les églises qui sont proposées, des moments de fraîcheur hein, durant ces périodes.
Exactement, bah oui, c'est la saison. Hein. Effectivement, il y a beaucoup de touristes, de vacanciers, de curistes aussi dans les Hautes-Pyrénées cet été. Et bien, les communautés paroissiales se mobilisent pour que le patrimoine religieux soit ouvert. Alors voilà, c'est l'occasion de découvrir l'histoire, mais aussi de passer très souvent un moment convivial.
Et puis avec Julie, également de l'Office de Tourisme de Lourdes, eh bien, on regardera les différentes propositions que l'on peut faire. Quelles sont les activités que l'on peut faire durant cette période estivale dans le pays de Lourdes. Voilà pour les grandes lignes de cette émission. Et au cœur de ce magazine, bien évidemment, c'est l'actualité. L'actualité régionale avec les titres. Ces titres sont présentés aujourd'hui par Clémence Roux.
Bonjour à tous. Le procès en appel de Cédric Jubilard pourrait être reporté après ses aveux et l'identification des ossements de Delphine Ossaguel. Une décision est attendue d'ici la fin de la semaine. À Montauban, 3 personnes ont perdu la vie et 2 autres ont été grièvement blessées dans une collision entre une voiture et un poids lourd. Airbus démarre fort la saison aéronautique en Angleterre avec une commande de 100 avions A320 Neo et une option pour 50 appareils supplémentaires. En Ariège, les fortes chaleurs perturbent l'équilibre des grottes touristiques, obligeant les gestionnaires à adapter leur fonctionnement. À Toulouse, le Muséum d'Histoire Naturelle a rouvert ses portes après un mois de fermeture liée à une panne de climatisation. Enfin, dans les Hautes-Pyrénées, la baignade et les activités nautiques sont désormais interdites dans la zone cœur du parc national des Pyrénées afin de préserver les milieux naturels. Voilà pour les titres de l'actualité.
Merci Clémence Roux. On vous retrouve dans moins d'une demi-heure à 12h30 pour développer ces titres dans le journal. À tout à l'heure.
Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
Direction maintenant le diocèse de Tarbes et Lourdes. Rebonjour Androse Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Comme chaque semaine, on vous retrouve pour l'agenda du diocèse avec pas mal de propositions, pas mal de visites, et avec notamment un pèlerinage, on en parlera, pèlerinage à Hautacam dans quelques minutes. Mais pour commencer, visite des églises avec Frère Mathieu, c'est cette proposition.
Oui,
débuter.
Exactement, le frère Mathieu Solière qui est moine bénédictin à l'abbaye de Tournaille. Il est un spécialiste du baroque pyrénéen et des retables. Chaque été, il propose des visites guidées pour comprendre cet art sacré et plusieurs rendez-vous donc sont donnés tout au long de l'été. Le premier rendez-vous, c'est ce jeudi 23 juillet où vous pourrez découvrir les églises de Bourg et de Dours. Rendez-vous à 14h30 donc ce jeudi 23 juillet devant l'église de Bourg, et puis vous pourrez suivre le frère Mathieu dans ses explications.
C'est la fête de Poélain ce dimanche 26 juillet. On peut peut-être rappeler où se trouve cette petite chapelle.
C'est à Arins-Marsous, dans le Val d'Azun. Cette petite chapelle, ce magnifique sanctuaire marien, le Gilles, s'il vous plaît, quand même, avec sa chapelle dorée. Et comme chaque année, eh bien, nous sommes invités le 26 juillet à fêter Sainte-Anne pour et vivre un pèlerinage dans ce sanctuaire marial Notre-Dame de Poélain. Pourquoi Sainte-Anne? Pourquoi le 26 juillet? Eh bien, parce qu'il y a les reliques de Sainte-Anne dans ce lieu marial des Hautes-Pyrénées. Ce jour-là, eh bien, la communauté paroissiale propose particulièrement aux grands-parents de faire une démarche de pèlerinage, mais c'est une journée ouverte à tous et qui démarrera à 9h avec une marche au départ de l'église d'Aucun, donc déjà dans le Val d'Azun, et puis le chapelet sera médité pendant toute la marche. Pour ceux qui ne pourraient pas marcher, rendez-vous directement à 10h30 pour méditer le chapelet dans la chapelle du sanctuaire. À 11h30, un temps de louange avec la prière de l'Angélus vous est proposé au sanctuaire même, et puis après le temps du pique-nique que chacun aura apporté, l'apéritif offert par la paroisse évidemment, il y aura à 13h30 une conférence de Monseigneur Jacques Perrier, l'évêque émérite de Tarbes-et-Lourdes, sur ce thème: Sainte-Anne, la grand-mère institutrice. À 14h30, vous rencontrerez le recteur du lieu qui vous expliquera les perspectives pour ce sanctuaire Notre-Dame de Poélain. Et puis à 15h, ce sera la messe avec la vénération des reliques de Sainte-Anne.
Durant cette période estivale, de nombreuses églises sont ouvertes tous les jours. Focus maintenant sur la paroisse du Pays de l'Almezan avec vous.
Oui, le territoire pastoral du Pays de l'Almezan est le plus vaste du diocèse. La ville de l'Almezan compte un peu moins de 6000 habitants. Partout autour, il y a des petites villes, des villages qui s'étendent jusqu'aux baronnies, c'est ce champêtre territoire. Voilà, vous pourrez même passer par le château de Gaston Phébus à Mauvezin. Et puis, eh bien, ça continue jusqu'au territoire comminjois de la Neste. Et puis la Barousse, voilà, avec son aspect très forestier d'un côté et de l'autre. Alors partout dans ce territoire pastoral, eh bien, les communautés chrétiennes ont à cœur de partager avec vous des temps de prière, et puis bien sûr les visites des églises, avec aussi différentes occasions, notamment les fêtes des villages, qui sont à chaque fois des opportunités pour se rencontrer. Alors parmi les églises ouvertes tous les jours, par exemple, il y a celle à Lannemezan, l'église Saint-Jean-Baptiste, hein, une église de la fin du XIIe siècle, avec son retable de Jean Soustre. Et puis, il y a aussi l'église de Cap-Verne, voilà, l'église Saint-Pierre à Cap-Verne, avec son retable de Jean Ferrer Ier du XVIIe siècle. Voilà, et non loin de là, eh bien, à Cap-Verne-les-Bains, vous pouvez découvrir l'église plus récente de 1968, qui a un retable de 2022. Et là aussi, c'est intéressant de voir que le patrimoine religieux, il date pas forcément du Xe, du XIe ou du XIIe siècle. Il y a aussi un patrimoine religieux plus récent, plus moderne, qui vaut le détour. Voilà, puis il y en a d'autres, des églises ouvertes tous les jours, mais je vous invite à parcourir ce territoire pastoral du Pays de l'Almezan et à rentrer dans les villages, à pousser les portes des églises depuis l'Almezan jusqu'aux baronnies, en passant par la Barousse, évidemment.
Voilà, la Barousse, on peut noter l'église de Saint-Vincent de Saint-Muron qui est ouverte, d'autres églises à noter, hein.
Exactement, puisque dans la Barousse, eh bien, chaque année, la communauté chrétienne, elle, propose des visites itinérantes pour vraiment ce petit territoire de la Barousse. Ça se passe tous les vendredis, vendredi dernier, depuis le 17 juillet jusqu'au 14 août, eh bien, vous avez rendez-vous à 14h30 devant la mairie d'Isaourt pour partir à la découverte de plusieurs églises. Alors, au programme, vous l'avez dit, l'église Saint-Vincent de Saint-Muron, c'est une petite église romane du XIIe siècle. Et puis, vous irez à Ferrer pour découvrir l'église Saint-Michel, qui est une église du XIXe siècle, avec vraiment des fresques absolument merveilleuses. Et puis, vous pourrez aller jusqu'à l'église d'Ourdes, l'église Saint-Martin d'Ourdes, qui est une église en style roman du XIIIe et XIVe siècle, et des peintures murales qui, elles, datent du XVIe siècle. Et puis, vous finirez ce circuit à Bagiry pour découvrir l'église Saint-Hilaire et sa petite, son patrimoine, son retable magnifique du XIIe siècle, un retable d'ailleurs qui a été restauré. Voilà, c'est un circuit, donc une visite itinérante des églises de la Barousse, de quelques églises de la Barousse. Voilà, chacun participe avec sa voiture. Le parcours dure environ 3 heures. Une libre participation aux frais est possible. Aucune réservation cependant n'est nécessaire. Voilà, donc vous venez comme vous êtes. Voilà.
Exactement. À noter que dans la vallée de la Barousse, il y a un monument historique historique et c'est dans un petit village de 40 habitants. Vous l'avez cité, ce petit village, c'est Ourdes. Ça se trouve en Barousse, à peine quelques kilomètres de Saint-Bertrand-de-Commages. C'est remarquable. Hein.
Exactement. Et donc, cette église du village qui est dédiée à Saint-Martin et que vous pouvez visiter donc les vendredis d'été, elle vaut vraiment le détour. Alors, cette église Saint-Martin, vous pouvez y découvrir. D'abord, elle a fait l'objet de travaux. Pendant plus de 10 ans, elle a vécu ou subi, si je puis dire, des travaux de restauration. Plus de 10 ans, c'est énorme. Et cette petite église, elle vous permet de découvrir Saint-Martin qui est représenté sur le tympan de la porte, partageant son manteau avec un indigent. Et puis sur le mur extérieur, près de l'ancienne porte qu'on appelle la porte des Cagots, une pierre gravée d'une main bénissant a été réemployée. L'église est classée monument historique depuis 1972. Et je vous le disais, elle a été fermée pendant plus de 10 ans pour des travaux de restauration très conséquents. Et depuis 2024, elle a à nouveau ouvert ses portes. Voilà, vous pouvez donc découvrir à la fois ce village superbe et cette église du 12e siècle complètement restaurée qui vaut vraiment le détour. Voilà, c'est un monument historique dans un petit village de 40 habitants. Ça se passe en Barousse et ça vaut le détour.
Voilà, ce petit village s'appelle Ourdes à découvrir donc cet été. On part du côté d'Argelès-Gazost.
Oui, alors on change complètement de vallée et je vous emmène effectivement dans la paroisse du pays d'Argelès-Gazost, à Argelès-Gazost même, où chaque mardi, tiens, c'est aujourd'hui, Gilles, on aurait dû aller faire un tour de marché, car le mardi à Argelès-Gazost, toute l'année, c'est le marché et la paroisse propose le café du marché. Alors ça, c'est toute l'année, hein, mais je trouve que l'été, ça a un charme encore plus significatif, puisque se mêlent bien des touristes avec les personnes de la vallée. Vous pouvez donc passer au presbytère de 10h à midi, après avoir fait votre petit tour sur le marché au presbytère, donc cette place Maréchal Joffre, pour partager un café, un temps convivial. Parfois même, il y a des petits gâteaux, il y a toujours un accueil très sympathique. Ça permet bien de, voilà, d'échanger avec des gens qui sont juste de passage, des gens qui ne connaissent pas du tout la vallée, des gens qui sont là depuis toujours, eh bien on s'assoit, on discute, on boit un petit café et voilà, et ça repart. Comme sur des roulettes.
Ça repart. C'est notre publicité, ça.
Non, mais c'est formidable. Passez donc à Argelès-Gazost le mardi midi.
Voilà, on reste sur le secteur d'Argelès-Gazost, direction le Haut-Acam, qui est bien connu pour les coureurs cyclistes avec ce pèlerinage à Haut-Acam. C'est le 2 août prochain.
Exactement, c'est là encore un pèlerinage qui n'est pas très connu, mais qui pourtant a lieu chaque année depuis des années. Premier dimanche d'août, dimanche 2 août, pèlerinage à Notre-Dame du Haut-Acam, parce que si vous vous promenez sur le massif du Haut-Acam, Gilles, si vous cherchez bien, vous allez voir, découvrir et pouvoir contempler cette petite statue de Notre-Dame du Haut-Acam. Et donc le dimanche 2 août, la paroisse du pays d'Argelès-Gazost vous propose de partir marcher en procession jusqu'au sommet pour prier Notre-Dame du Haut-Acam et puis partager un repas là-haut, tout là-haut, bien là-haut.
Voilà, pèlerinage à Haut-Acam, hein, c'est pas très loin, une douzaine de kilomètres de montée avec une magnifique vue sur la vallée.
Oui, effectivement, vous pouvez admirer la vallée. Et puis voilà, oui, c'est vrai que c'est un massif qui est très connu, qui est très accessible. Et vous pouvez faire de magnifiques promenades. Alors ce jour-là, en plus de la balade, c'est une démarche de pèlerinage. Donc ça vaut le coup quand même.
Exactement.
On vous en propose des choses sympas quand même, hein, dans les pistes de Tarbes et Lourdes.
Exactement. Et toutes ces propositions, elles sont rassemblées dans le numéro 78, le bulletin diocésain spécial pastoral du tourisme, est disponible dans les paroisses et en téléchargement.
Bien sûr, sur le site du diocèse catholique65.fr, vous pouvez télécharger donc ce livret qui est, alors même, c'est une bonne nouvelle, figurez-vous qu'il est incomplet parce que depuis le début de l'été, d'autres nouvelles arrivent au service communication du diocèse, des nouvelles, des informations, des propositions, des dates de concerts, de visites d'église, qui ont été organisées depuis la parution de ce livret et donc qui sont visibles sur le site du diocèse et sur l'application au clocher, parce que ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Publier un livre que les idées s'arrêtent.
Voilà,
idées
mais dans continuent. Ce livre, on peut noter quand même qu'il fait 55 pages.
Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'il y en a des initiatives un petit peu partout. Voilà. Hein. Bravo à toutes les personnes qui portent ces initiatives localement.
Voilà, et à noter qu'il est gratuit.
Il est gratuit, c'est un cadeau du diocèse de Tarbes et Lourdes.
Merci, Anne-Rose Jankovic.
Vous pouvez m'envoyer des pâtes de fruits si vous voulez quand même.
Oui, voilà, on vous donnera votre adresse juste après.
Oui,
merci. Voilà pour l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes.
Présence à Cahors, 92.5.
Et Anne-Rose, vous restez avec nous puisque dans 3 minutes, la suite de Présence Midi, eh bien, c'est avec cet incendie qui mobilise les pompiers dans les Hautes-Pyrénées.
Depuis le 8 juillet, un incendie est en cours à Barège, sur les hauteurs de Barège, au niveau du plateau du Lien. Je suis ce matin allée à la rencontre des pompiers qui sont mobilisés jour et nuit depuis maintenant presque 13 jours.
Reportage à écouter dans 3 minutes.
Monday. It's just another morning, Tuesday. I only feel like living day after day. Life slips away. Moi, je vis d'amour et de danse. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle. Comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires et d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi.
C'est en musique après Wax que nous nous retrouvons Anne-Rose Jankovic en reportage à Barège.
Présence, place du Capitole, 97.9.
Mardi 21 juillet, au petit matin, à 6h30, il n'y a pas grand monde sur la route qui monte au Tourmalet. Après Luce, puis Barège, il n'y a guère que les camions des pompiers gyrophares allumés. C'est au parking de Tournabout que je les retrouve. Ils sont déjà en réunion, comme chaque jour depuis le 8 juillet dernier, jour où s'est déclaré un incendie dans la vallée de la Glaire, au niveau du plateau du Liens, à une hauteur de 2200 mètres d'altitude. Depuis, ce sont 130 hectares qui ont brûlé dans cette zone difficile d'accès. C'est ce que nous explique le capitaine Bertrand Mena. Il est commandant des opérations de secours du service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées.
Depuis 12 jours, effectivement, nous avons un feu qui s'est déclaré suite à une ignition naturelle par un impact de foudre dans le massif au pourtour du pic de l'Urté. Et depuis, nous luttons face à un feu qui se veut technique et exigeant puisqu'il se trouve en zone montagneuse et rocheuse.
Donc pas d'habitation à proximité du feu ?
Il n'y a pas d'habitation directement concernée et à défendre. Nous sommes ici en train de défendre le massif, mais surtout d'éviter une propagation au reste de la végétation. Alors effectivement, toujours la priorité des forces de sécurité civile sera de protéger en premier les personnes, puis les animaux, les biens et l'environnement. C'est de notre rôle de commandant des opérations de secours de mettre en place des actions priorisées et stratégiques pour pouvoir arriver à ce résultat-là.
12 jours de lutte contre les flammes, c'est beaucoup. Les pompiers doivent travailler en composant avec les aléas climatiques, car si tout nous paraît calme depuis le bas de nos vallées, les vents peuvent compliquer la tâche. Et puis, il faut considérer un autre facteur. Ce ne sont pas des forêts qui sont en proie aux flammes, mais une végétation basse avec son lot de particularités. Capitaine Bertrand Menard.
2 jours, ça paraît énorme, effectivement, au plein cœur de la saison estivale et lorsqu'on voit les grands feux, notamment dans le sud-est ou aux alentours de l'Île-de-France. Il faut savoir que 12 jours, ça peut être quelque chose parfois de courant, ce qu'on essaie de faire le moins possible, puisqu'on est en zone montagneuse, difficile d'accès. Et nous sommes actuellement à 130 hectares brûlés. Alors, la situation ce matin, on est sur un feu qui est stabilisé, mais qui n'est pas encore fixé, avec un objectif du service départemental d'incendie et de secours. Ça serait de fixer le feu dans la journée aujourd'hui. Toutefois, nous sommes tributaires des conditions climatiques. Quand vous parliez de feu de forêt, on est sur un feu de montagne avec de la végétation basse. On entend par feu de forêt des feux de cime, des feux qui brûlent tous les arbres jusqu'à leur pleine hauteur. Là, on est sur la végétation basse, principalement du genévrier, principalement de la strate herbacée.
Et ça brûle autant, aussi vite.
Et ça brûle aussi vite, voire plus vite, puisqu'on a un feu qui arrase le sol, qui est soumis au thermique, qui est soumis au vent, donc qui se propage beaucoup plus vite.
Alors, pourtant, on a l'impression, quand on est simple promeneur, qu'il n'y a pas tellement de vent et que les choses pourraient être contenues assez rapidement. Mais vous nous dites qu'il y a quand même des facteurs météorologiques qui compliquent la tâche.
Effectivement, vous avez raison de mettre ça au conditionnel, pourrait se contenir très rapidement. C'est sans compter sur l'aérologie montagneuse qui elle, nous donne du fil à retordre, il faut le dire, puisqu'on a des vents tournants, on a des vents qui s'inversent, parfois à quelques minutes ou quelques heures de différence.
Vous l'avez bien compris, l'incendie est situé dans une zone de haute montagne, scabreuse, rocheuse, compliquée d'accès. La couche superficielle du sol a été fragilisée par le feu, provoquant un risque de chute de pierre. Les secours doivent faire preuve de grande habileté et de technicité pour accéder au foyer et en venir à bout, peut-être dans la journée.
Alors notre principale action se déroule au travers des moyens terrestres, dont notamment l'emploi de l'équipe spécialisée, groupe de renfort et d'appui des feux d'espace naturels, qui sont des sapeurs-pompiers spécifiquement formés pour agir en autonomie ou pour être projetés en hélicoptère, ce qu'on appelle les détachements d'intervention héliportés. Et ensuite, nous appuyons cette action qui est précise et chirurgicale, je dirais, avec les forces communes qui passent par les sentiers, avec de longues minutes de marche, parfois quelques heures, pour atteindre le foyer lui-même.
Donc quand on dit que cet incendie est là depuis 12 jours, hein, c'est le 13e jour même, je crois, ça veut dire que depuis 13 jours, il y a des hommes et des femmes qui sont mobilisés jour et nuit.
Il y a des hommes et des femmes qui sont mobilisés jour et nuit, que ce soit dans la lutte, que ce soit dans la veille, mais surtout aussi, je veux mettre en avant l'emploi de l'hélicoptère bombardier d'eau, qui est mis à disposition. Qui nous permet de faire plusieurs largages dans la journée au moyen d'un outil qu'on appelle le Bambi Bucket et qui permet à chaque largage de déverser 800 litres d'eau.
Et cette eau, elle vient d'où ?
Cette eau, on la prend exclusivement en milieu naturel, notamment en ce moment sur le lac de la Glaire.
Donc dans les Hautes-Pyrénées, on est équipé pour faire face à ce genre d'incendie ?
On est équipé pour faire face à ce genre d'incendie qui se veut long, technique et fastidieux.
Oui. Ça veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas eu besoin d'avoir recours à l'aide des pompiers d'autres départements.
On a fait des demandes effectivement de renfort et de collaboration, notamment sur la partie technique, sur le groupe spécialisé Graphen. Et nous avons eu la mise à disposition d'un bombardier d'eau lourd qui nous est arrivé de la zone de défense et de sécurité sud.
Alors quand on se promène dans les villages, dans les vallées, les gens ont l'impression que ben, ici tout est vert, qu'il y a encore pas mal d'eau dans les Hautes-Pyrénées, qu'on est quand même un peu à l'abri des risques d'incendie. Finalement, ce qui se passe aujourd'hui à Barège, alors il n'y en a pas d'autres pour l'instant dans les Hautes-Pyrénées. Est-ce que vous dites c'est un cas isolé, c'est la chance à pas de bol parce que c'est à cause de la foudre, ou est-ce que c'est l'occasion pour vous quand même de dire attention, même si ça paraît très vert ici en Bigorre, il y a quand même des risques?
Je veux dire que le feu que nous rencontrons aujourd'hui, les feux que nous rencontrons aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'hier et ne seront pas les mêmes que ce que nous trouverons demain.
Pourquoi ?
Parce qu'effectivement, il y a un réchauffement climatique avec un déplacement d'une vague de chaleur qui fait que lorsque les Pyrénées étaient plutôt épargnées, plutôt vertes, se retrouvent maintenant soumises à un stress de la végétation, notamment dans son hygrométrie.
Aujourd'hui, vous allez y arriver à arrêter ce feu-là. Aujourd'hui, donc mardi 21 juillet, vous êtes confiant?
Confiant, on essaie de l'être, mais déterminé, ça c'est une chose certaine. Ouais. Et je sais compter sur tous les hommes et sur toutes les femmes avec qui on lutte chaque jour, parce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense qu'ils méritent de la population la meilleure des reconnaissances.
La dernière question, c'est en fait, finalement, depuis là où on est, hein, le parking de Tournabout, on voit pas les fumées par moment. On sent un petit peu une odeur. La route n'est pas coupée. Pour les usagers, finalement, on a l'impression que comme si de rien n'était, quoi.
Notre intervention se doit aussi de permettre la continuité de la vie autour. C'est pour cela qu'une intervention en montagne, je n'ai pas demandé à boucler un périmètre, je n'ai pas demandé à arrêter la vie autour, puisque certes, si on s'occupe du feu, il faut permettre encore la vie et surtout le tourisme.
Donc, mais par contre, le plateau du Liens, lui, est condamné à l'accès pour l'instant.
Effectivement, et j'engage l'ensemble de la population à suivre les recommandations qui ont été faites et l'ensemble des communications, d'éviter de se promener ou de randonner autour de la zone sinistrée, de ne pas gêner l'accès des secours dans la montée, dans la vallée, et surtout de détourner l'itinéraire à pied, si toutefois il devait le faire, puisque en montagne, le temps change très vite, mais aussi le feu peut se retourner très vite. Il faut éviter le lac de la Glaire, la piste du lac de la Glaire, le pic de l'Urté. Oui. On va dire, on prend le pic de l'Urté et on fait une zone de 4 km autour.
Capitaine Bertrand Menat, commandant des opérations de secours du service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées. Il répondait à mes questions ce matin depuis le parking de Tournabout au-dessus de Barège, juste avant de monter dans l'hélicoptère pour poursuivre l'intervention avec ses équipes. Je vous rappelle qu'il lutte contre un incendie de montagne provoqué par la foudre le 8 juillet dernier. Et vous l'avez entendu, le domaine du pic de l'Urtête et du lac de la Glaire sont inaccessibles aux randonneurs jusqu'à nouvel ordre.
Merci Anne-Rose Jonkovic, voilà pour ce reportage réalisé ce matin à l'aube à Barège. Et sur ce secteur, il y a aussi un lieu de prière.
Oui, effectivement, d'ailleurs, au moment où je réalisais mon reportage ce matin, donc peu après 7h, une messe était célébrée par l'abbé Benjamin Martin, qui est le curé du Pays Teuil, donc de tout ce territoire. Une messe célébrée en l'église de Luce et une messe dite pour demander le secours de Notre-Dame du Liens, celle qui est vénérée sur le plateau du Liens, non loin justement du foyer de l'incendie. Sur ce plateau du Liens se trouve le fameux camp Rolov, voilà, ce camp qui porte le nom d'une figure chrétienne de la résistance, avec une chapelle en bois au milieu des pâturages. Cette chapelle n'est pas touchée par l'incendie, ont assuré les pompiers ce matin, mais quand tout sera rentré dans l'ordre, eh bien chacun pourra s'y rendre et s'y recueillir. Vous pourrez ainsi découvrir une fresque peinte représentant les saints du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Je crois même, enfin même, je sais de source sûre, puisque c'est le curé qui me l'a dit, que l'Orphéon de Luce, cœur d'homme, a l'habitude de chanter un chant dédié à Notre-Dame du Liens. Notre-Dame du Liens, à vos genoux, nous redisons oui à l'appel du Seigneur.
Sous la vallage et dans l'orage, Jésus, écoute notre foi. Notre-Dame du Liens, à vos genoux, nous répondons.
Voilà pour cet extrait de l'Orphéon de Luce.
Voilà, et moi je trouve ça très beau de savoir et bien que la communauté chrétienne du Pays Teuil prie pour les pompiers qui sont en train de lutter contre ces flammes.
Voilà pour ce reportage.
C'est ça la vie.
Exactement, reportage est réalisé ce matin à l'aube. Vous êtes levé à 5h du matin.
Les gens savent tout. Exactement. À 5h10 exactement.
5h10.
D'ailleurs, c'est sympa le programme de la nuit de Radio Présence. Très agréable.
Bah, oui.
J'ai failli me rendormir quand je ça m'a donné du courage pour me lever.
Voilà, et puis voilà. Après vous avez écouté Radio Présence sur la route dans les gorges de Luce.
Exactement.
Voilà, avec le lever du soleil.
C'était superbe. Magnifique. C'était superbe et voilà, j'ai admiré le paysage et d'ailleurs puisqu'on se dit tout, oui. Eh bien, en montant voilà à Luce et à Barège, je pensais au bienheureux Pascal Vergès, ce bienheureux de chez nous, figure de la résistance aussi et qui a vécu à Luce Saint-Sauveur. Et je pensais et je priais pour lui et avec lui pour le diocèse de Tarbes et Lourdes. Voilà, puisque c'est une route qu'il a parcourue. Elle était peut-être pas dans le même état à son sûrement. Époque, mais voilà. En tous les cas, on a une terre bénie en Bigorre.
Exactement.
Une terre bénie et protégée par les pompiers.
Merci beaucoup, Andros Jankovic. On va parler encore de prévention dans un instant. Prévention en montagne avec le PGHM que vous avez rencontré il y a quelques semaines à peine.
Exactement, puisque, eh bien, vous l'avez remarqué, Gilles, il y a beaucoup de touristes et de vacanciers, beaucoup de familles aussi qui viennent et puis qui partent à l'aventure en montagne. Mais on ne part pas à l'aventure comme ça en montagne. Il y a quelques précautions à prendre avant d'emprunter les sentiers et le PGHM nous dit tout cela.
Juste après le journal régional, puisque sur les pendules de Radio Présence, il est quasiment 12h30 et on retrouve Clémence Roux pour le journal régional et juste après on retrouve donc avec le PGHM. Merci Androsa, tout de suite.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, le procès en appel de Cédric Jubilard pourrait être reporté. Prévu à partir du 21 septembre devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, il est remis en question après les aveux de l'accusé et la découverte des ossements de Delphine Ossaguel formellement identifiés grâce aux analyses ADN. Une décision sur le maintien ou le renvoi des audiences est attendue d'ici la fin de la semaine. À Montauban, un dramatique accident de la circulation s'est produit ce week-end. Une voiture et un poids lourd se sont entrés en collision frontale sur une route départementale. Le bilan est très lourd. 3 personnes ont perdu la vie et 2 autres ont été grièvement blessées. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Autre information, Airbus démarre fort le salon aéronautique en Angleterre. Le constructeur européen a enregistré une commande de 100 avions de la famille A320neo de la part du loueur Avolon, assortie d'une option pour 50 appareils supplémentaires. Dans le reste de l'actualité, en Ariège, les fortes chaleurs mettent en difficulté les célèbres grottes touristiques. Malgré une température naturellement fraîche, les épisodes de canicule perturbent l'équilibre thermique de ces cavités souterraines. Les gestionnaires s'adaptent pour préserver ces sites fragiles dont certains accueillent chaque année des milliers de visiteurs. À Toulouse, le Muséum d'Histoire Naturelle accueille de nouveau les visiteurs. L'établissement a rouvert ses portes après un mois de fermeture provoquée par une panne de climatisation en pleine période de forte chaleur. Les expositions permanentes et temporaires sont désormais de nouveau accessibles au public. Enfin, dans les Hautes-Pyrénées, la baignade et les activités nautiques sont désormais interdites dans la zone au cœur du parc national des Pyrénées. Cette mesure vise à préserver des milieux naturels les plus sensibles ainsi que la tranquillité de la faune sauvage durant la saison estivale.
Merci Clémence Roux, voilà pour l'actualité régionale. Retour de l'info sur notre antenne dès 13h avec toute l'actualité nationale et internationale. Pour cela, on se connectera avec les studios de Radio Vatican à Rome. Quelles sont les activités que l'on peut faire cet été autour de Lourdes, dans le pays de Lourdes? Eh bien, la réponse, ce sera avec Julie de l'Office de Tourisme. Elle sera avec nous dans une vingtaine de minutes. Et dans un instant, on retrouve Androse Jankovic avec le PGHM dans les Hautes-Pyrénées. Ce sera juste après la belle histoire de Michel Fugain.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin,
l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard, elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés.
C'était fini le jour de chance.
Ils reprirent alors chacun leur chemin,
saluèrent la providence en se faisant un signe de la main.
Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le...
C'est la belle histoire de Michel Fugain qui vous accompagne à la mi-journée à 12h35 dans ce Présence Midi, avec maintenant Anne-Rose Jankovic et le PGHM dans les Hautes-Pyrénées qui renouvelle tous ses conseils de prudence durant cette période estivale.
Présence à Mirande 104.2.
De plus en plus de personnes sont attirées par les activités de montagne, randonnée, trail, VTT, vol libre. L'arrivée d'un public croissant et parfois peu ou mal informé demande une vigilance particulière en montagne. Voilà pourquoi le département des Hautes-Pyrénées lance l'opération Prévention Montagne avec une dizaine de partenaires, dont le PGHM, la MAIF, le Parc National des Pyrénées par exemple. Cette opération permet de porter des messages de prévention, les bonnes pratiques et les gestes à adopter en allant directement au contact des randonneurs. Pour l'été 2026, 20 opérations sont programmées du 7 juillet au 28 août dans différents lieux, ceux qui sont les plus fréquentés dans les Hautes-Pyrénées, les marchés d'Argelès-Gazos, de Lucin-Sauveur, le lac d'Estaing, le pont d'Espagne, les offices de tourisme, les portes de la vallée du Rioumajou, Saint-Lary-Soulan, Gavarnie ou encore le col du Souleur ou le refuge de la Soula. L'objectif est de délivrer des messages simples sur les thèmes suivants: la préparation à la randonnée, les règles à respecter en montagne, le matériel indispensable à emporter, l'alimentation, l'hydratation, etc., etc. Des conseils qui peuvent sembler tout à fait dérisoires, mais qui sont essentiels pour éviter les situations d'accidents, voire de drames, car il faut savoir qu'en 2025, il y a eu plus d'accidents mortels en montagne que d'accidents mortels sur les routes dans les Hautes-Pyrénées. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment peut-on éviter cela? Réponse avec Jean-Michel Rodet, commandant adjoint au PGHM de Pierrefitte-Nestalas.
Donc en fait, ça s'explique par une année particulière, certainement avec des conditions nivologiques en début d'année qui ont été compliquées et qui ont occasionné donc le décès de plusieurs pratiquants de la montagne en hiver.
Ça veut dire qu'on pratique moins bien la montagne, qu'il n'y a plus de bonnes habitudes. La montagne, elle n'a pas changé, il y a toujours eu du monde en montagne. Qu'est-ce qui fait que les accidents augmentent?
Mais en fait, c'est la fréquentation qui fait augmenter automatiquement le nombre de secours en montagne, quoi, hein. Alors pourquoi elle est plus mortelle certaines années que d'autres? C'est souvent lié donc aux conditions hivernales qui peuvent être particulièrement difficiles, mais pas que, certainement aussi par le comportement des pratiquants qui n'ont pas forcément toujours bien mis de tout ce qu'il fallait pour que tout se passe bien, quoi.
Tout ce qui va, c'est-à-dire des personnes qui finalement ne sont pas tellement habituées et partent avec un équipement qui n'est pas suffisant ou qui n'est pas adapté.
Voilà, ça peut être ça, et puis qui n'ont pas évalué potentiellement la difficulté qu'ils pouvaient rencontrer en montagne, soit par le parcours, soit par la météo, soit par leur préparation. Voilà.
Finalement, quand le PGHM intervient, c'est pas seulement pour des accidents très graves, ça peut être parfois juste des mauvaises habitudes ou voilà, un comportement un peu inadapté, mais qui aurait pu être évité.
Voilà, et c'est pour ça qu'on se félicite en fait de cette action de prévention où on va multiplier la communication auprès donc de tous les pratiquants de la montagne pour qu'ils puissent être sensibilisés sur le fait que ben, la sécurité en montagne, c'est le voilà, c'est le fait de tous. Du coup, par quelques bons réflexes, on arrive à limiter effectivement, on l'espère, le nombre de secours par quelques bons comportements. Voilà, se renseigner sur la météo, être bien équipé, avoir suffisamment à boire, à manger, ne pas boire dans les ruisseaux, par exemple. On a eu l'été passé beaucoup d'interventions liées à ce problème-là. Ensuite, on a des actions de prévention auprès des trailers. Voilà, les trailers qui font souvent donc le transfert d'une activité qu'ils peuvent avoir en périurbain, voire en urbain, et qui viennent découvrir la montagne et courir en montagne, et où forcément ils n'ont pas forcément les codes nécessaires à la pratique de la course en montagne en toute sécurité.
Donc la fréquentation a augmenté et le public s'est diversifié, puisque là on entend donc les trailers, c'est une catégorie de public, mais les familles, c'est un autre message peut-être à faire passer quand des familles partent avec des enfants assez jeunes en montagne. Enfin, est-ce que vous avez vous constaté que le public aussi s'est diversifié?
Oui, effectivement, on a constaté le changement de profil post-Covid. Ah oui. Où effectivement on a eu donc pas mal de familles aussi qui revenaient vers la montagne, soit pour chercher de la liberté, soit pour chercher de l'air frais. Oui. Et effectivement donc là il y a aussi des actions de prévention pour leur indiquer comment se comporter sur les zones pastorales où ils sont confrontés donc à la présence de troupeaux, à la présence de chiens de garde.
Et ça ne veut pas dire que le pastoralisme et le tourisme sont en opposition, mais parce qu'ils sont sur le même territoire, il faut que tout ça puisse cohabiter. C'est possible?
Tout à fait, c'est complètement possible de cohabiter donc avec le pastoralisme et avec le tourisme. Et il faut juste que les gens qui pratiquent la montagne aient la connaissance du comportement du chien qui protège son troupeau et qui soit en mesure en fait d'analyser son comportement, qui n'est pas forcément une agression. Alors certes il va se mettre à aboyer entre le troupeau et le randonneur, mais c'est pas pour ça qu'il va être forcément dangereux. D'accord, lui il fait juste son travail, il dit attention, je garde mon troupeau.
Sur les opérations de prévention que vous allez en mener un petit peu partout, enfin en tous les cas dans les sites très fréquentés des Hautes-Pyrénées pendant tout l'été, là, juillet, août. Donc ça veut dire que vous posez un endroit avec vraiment cet objectif de faire passer le message. Hein. Donc l'objectif, c'est de parler aux gens avant qu'ils aillent en montagne. Est-ce qu'ils sont réceptifs à ce genre de prévention? Finalement, ils ne viennent pas en vacances pour être en kikiné. Est-ce qu'ils apprécient? Est-ce que vous avez des retours? Est-ce qu'ils posent des questions? Est-ce qu'ils sont attentifs et curieux à ce que vous avez besoin de leur dire?
Oui, en règle générale, ils sont attentifs, surtout qu'on intervient, donc on est en tenue. Oui. Et puis le message qu'on essaie de leur faire passer, voilà, c'est un message quand même de bienveillance et de sécurité. Donc en général, ils accueillent le message de façon positive. Oui.
Quels sont les trois conseils principaux que vous leur donneriez à tous, hein, quel que soit le profil? On a dit qu'il y avait des profils très divers, mais vraiment les conseils pour tout le monde qui sont vraiment à retenir quand on va en montagne?
En fait, le premier conseil, c'est de préparer sa sortie en montagne, c'est savoir où est-ce qu'on va aller. Ce qui n'est pas forcément le cas. Des fois, les coureurs ne téléchargent qu'une trace GPS, oui, qu'ils mettent sur leur montre et qui n'ont pas pris le temps de confronter à une carte. Voilà, donc préparer sa sortie en montagne, consulter la météo, être bien équipé parce que le temps change vite en montagne, et savoir renoncer. Voilà, savoir renoncer quand on...
C'est dur ça.
Et c'est ça qui est un petit peu difficile, ouais, oui, effectivement.
Vous intervenez bien sûr toute l'année, donc quelle est la saison la plus difficile, la plus risquée, été, hiver? Ce ne sont pas les mêmes risques, mais le PGHM intervient plus à quel moment?
Bon, la période estivale est quand même bien chargée pour nous sur les mois de juillet-août avec effectivement la hausse de la fréquentation qui est la plus forte à ce moment de l'année. Mais on intervient aussi beaucoup en hiver puisque donc on intervient aussi au profit des stations de ski pour les cas les plus graves.
Est-ce qu'on a une estimation de nombre d'interventions, peut-être si on se base sur les chiffres de 2025?
Oui, donc en fait, uniquement pour le PGHM de Pierrefitte, 350 interventions donc pour l'année 2025. Voilà, donc on multiplie par deux avec les services des CRS qui font à peu près le même nombre de secours que nous.
Jean-Michel Rodet, commandant adjoint au PGHM de Pierrefitte, Nestalas. L'action prévention montagne démarre donc le 7 juillet et durera jusqu'au 28 août, un petit peu partout dans les Hautes-Pyrénées. Pour connaître le calendrier estival des interventions prévention montagne, rendez-vous sur le site du département www.hautepyrénées.fr.
Et merci à Anne-Rose Jankovic. Voilà pour cet entretien qui a été enregistré juste avant le début de l'été. Quelles sont les activités que l'on peut faire dans le pays de Lourdes durant cette période estivale? C'est la question qu'on va poser dans un instant à Julie qui sera avec nous. Julie qui fait partie de l'Office de tourisme de Lourdes.
Présence à Lannemezan 92.2.
Taking away
Ax-les-Thermes, 92.7.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Amener son chien en vacances à Lourdes, c'est possible. On va en parler avec Julie de l'Office de tourisme de Lourdes. Bonjour Julie.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Dans un instant, on va parler des différentes activités où les chiens sont autorisés. Et tout d'abord, on va détailler les hébergements qui autorisent, qui acceptent les animaux.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à Lourdes, en général, c'est un peu l'actualité de laisser son chien pendant les vacances. Mais non, on peut tout à fait venir avec son compagnon en vacances à Lourdes. Et pour ça, on a vraiment tout un côté pratique avec l'hébergement, la restauration, même les activités qui sont disponibles. Et pour commencer, effectivement, Gilles, on va parler de s'héberger avec un chien. Et c'est vrai qu'on a cette chance à Lourdes d'avoir un panel d'hébergement assez impressionnant. Et il faut noter que 53 hôtels qui vont du 5 aux 2 étoiles à Lourdes acceptent les animaux. On va aussi avoir 47 hébergements locatifs qui les acceptent. Ça va du petit studio à louer en centre-ville et jusqu'à la chambre d'hôte ou même les gîtes à la ferme sur certains villages à proximité immédiate de Lourdes. Et on va également avoir les campings. Les 6 campings de Lourdes acceptent les animaux. Idem pour les restaurants. Beaucoup ont des terrasses, mais même sans cela, les animaux sont acceptés dans la plupart des cas. Bien sûr, s'ils sont bien sages, il n'y a pas de problème.
Voilà pour les hébergements. Alors maintenant, quelles sont les activités où les chiens sont les bienvenus ?
Ah voilà, alors du côté des visites, en fait, il n'y a pas beaucoup d'interdits finalement. Vous allez pouvoir monter au château fort musée pyrénéen de Lourdes, le visiter avec votre compagnon. Vous pouvez également le mener avec vous dans le funiculaire du pic du Gers, et même faire la randonnée, hein. C'est tout à fait possible par le chemin, par l'accès, la randonnée d'environ 3 heures aller-retour. On peut également aller jusqu'au musée de Cire, au musée du Petit Lourdes. Voilà, il y a quand même une grosse majorité des sites de visite qui sont accessibles. Juste petit bémol, au niveau des halles. Là, dans la partie, alors, en tout cas, à l'intérieur des halles de Lourdes, pour la partie où se trouvent les stands alimentaires, là, il ne va pas être autorisé. Et également, au niveau du lac de Lourdes, sur la petite zone dite embarcadère, où vous avez les jeux pour enfants, là non plus, ils ne sont pas acceptés. Vous avez aussi une interdiction au niveau du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, à l'exception des chiens d'accompagnement pour les personnes qui en ont besoin, les personnes en situation de handicap, ils ne sont pas autorisés.
Alors pour la visite du sanctuaire, il existe donc des solutions pour son chien.
Bien sûr, voilà, on ne va pas le laisser tout seul à la grille. Il existe pas mal de solutions de gardiennage à Lourdes. À l'office de tourisme, on peut vous donner une liste. Ça va du pet sitter qui va aller vous le promener dans le quartier pendant votre visite, à l'hôtel pour animaux qui va vous les garder. Voilà, il y a vraiment plein de solutions pour pouvoir les garder en sécurité pendant ce petit temps où ils ne pourront pas être avec vous.
Voilà pour les sites à Lourdes. On va un petit peu élargir et s'éloigner avec, évidemment, dans les endroits un peu nature. Est-ce qu'on peut amener son chien pour se balader ?
Oui, on peut amener son chien pour se balader là aussi sur de grands espaces. La seule restriction, mais on y reviendra un petit peu après, ça va être le parc national des Pyrénées. C'est vrai que quand on est à Lourdes, on peut avoir l'impression sur les cartographies qu'il est vraiment juste à côté, qu'il est tout proche, mais il y a quand même énormément de massifs que vous pouvez parcourir avec votre animal en toute sécurité avant d'arriver dans le cœur, dans la zone cœur du parc national, en tout cas des Pyrénées. Donc on va citer déjà à Lourdes, au départ même de Lourdes, vous allez pouvoir monter au pic du Gers, vous allez pouvoir aller sur le massif du Béhout, sur le tour du lac de Lourdes ou encore le long de la voie verte des Gaves. Attention, toujours tenue en laisse. La voie verte, elle est partagée avec des vélos, donc attention de le garder vous et lui en sécurité. De même que sur le Béhout, qui est une zone pastorale, donc là avec les troupeaux, faites attention, voilà, de bien l'attacher.
Vous parlez de zone pastorale, qu'en est-il du Haut-Acam ?
Le Haut-Acam, c'est tout à fait autorisé. Vous n'êtes pas encore dans le parc national des Pyrénées. Et là, sur le Haut-Acam, vous allez avoir des départs de randonnée, notamment les plus connus, qui vont être vers le lac d'Isaby, ou les lacs aussi d'Ourec ou de Bassias. Là, on peut tout à fait y accéder sans problème avec son chien. Et un peu plus loin, du coup, quand vous dépassez le Haut-Acam, de l'autre côté, vous avez le Pibest, la zone aussi de la réserve naturelle régionale du Pibest Aouiette, avec des réglementations un petit peu spécifiques à ce parc. Donc, par exemple, concernant le bivouac, le feu, la cueillette, mais les chiens, ils sont autorisés aussi. Donc, on peut tout à fait monter au pic du Pibest, qui domine la ville aussi de Lourdes.
On va maintenant évoquer le cas du parc national des Pyrénées. Comment on fait avec son animal ?
Et voilà, les plus connus, en général, ça va être pour aller à Gavarnie, à Cotteret, là, il va y avoir quelques restrictions parce qu'effectivement, à ce moment-là, on est dans le parc national des Pyrénées. Donc pareil, pas de feu, pas de cueillette, pas de survol en drone, bivouac réglementé et les chiens interdits. Alors, ils sont interdits, oui, mais il va y avoir quelques spécificités pour les sites pour quand même permettre au plus grand nombre de découvrir ces sites d'exception, notamment à Gavarnie par exemple, vous allez pouvoir aller avec votre animal sur le sentier principal uniquement et jusqu'à l'hôtellerie du cirque, donc c'est déjà quand même une belle randonnée d'à peu près 3 heures. À Cotteret également, vous pouvez tout à fait amener votre chien au pont d'Espagne et sur le télésiège également pour aller jusqu'au lac de Gobe. La seule partie où il va être interdit, ça va être le GR10, donc qui relie le pont d'Espagne au lac. Et vous avez également, mais là c'est un peu en dehors, c'est pas encore dans la zone cœur du parc, le Val d'Azun, donc avec toute la vallée qui monte jusqu'au Soulor et même jusqu'à l'Aubisque. Hein. Et là vous êtes encore en lisière du parc, donc c'est tout à fait autorisé jusqu'au lac d'Estaing notamment, le lac du Teche, le Soulor, jusqu'au lac d'Etsoum ou Couraduc. Là on peut faire de très belles randos aussi avec son animal et encore une fois toujours tenu en laisse. Hein. Ce sont toutes des zones pastorales.
Voilà pour ces conseils pratiques, hein, vous l'avez dit, donc on peut amener facilement son chien à Lourdes et aux alentours de Lourdes en respectant toutes ces consignes. Un grand merci Julie, voilà, de l'Office de Tourisme de Lourdes, ça fait également partie des questions que l'on vous pose régulièrement au sein de l'Office de Tourisme de Lourdes.
Exactement, ben, merci beaucoup, très bonne journée à tous.
À bientôt.
Balade en Pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
So one.
Présence à Auch 89.6.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Publication en italien d'un recueil de textes sur la paix de Léon XIV, le pape en signe lui-même la